Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 250 ans, la Lorraine devenait française. Gersand, notre auditrice, s'est chargée de nous le rappeler. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui les circonstances de ce rattachement. Bonjour Franck.
Bonjour Omblin, bonjour à tous. En effet, je le disais dès ce matin à 6h25 chez Thomas Soto, le 23 février 1766 a vu mourir le dernier duc souverain de Lorraine, qui était un ancien roi de Pologne, mais se trouvait être surtout le beau-père du roi Louis XV, Stanislas Leszczynski. Du même coup, ce jour-là, au terme d'un accord diplomatique dont je vais vous parler là à l'instant, la Lorraine est revenue définitivement dans le giron de la France. Il est vrai que par la suite, entre 1871 et 1919, une partie de cette belle région a été annexée par l'Allemagne, vous le savez, mais la Lorraine n'en est pas moins depuis 2 siècles et demi française à part entière. Pierre-Hippolyte Penet, qui est le commissaire de l'exposition nancéenne La Lorraine pour Horizon, est notre invité cet après-midi.
Et tout à l'heure, vous répondrez à la question de Patrice sur les origines de la Lorraine.
Eh bien, si vous le voulez, et ça sera l'exception qui confirme la règle, je vais commencer l'émission d'aujourd'hui par la réponse à cette question. Car plus qu'une conclusion, il m'a paru que ça pouvait faire une excellente entrée en matière.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Entre 50 et 52 avant Jésus-Christ, la Gaule, je ne vous apprends rien, est conquise par les légions de César. La Lorraine, à cette époque, fait partie d'une province qu'on appelle la Gaule Belgique. La vallée de la Moselle devient à ce moment-là un important axe de communication. Metz, Verdun, Toul sont créés. Elles portent à l'époque des noms latins, bien sûr. Et ce sont les Francs qui, conquérant la Gaule Belgique au 5-6e siècle, vont créer un nouveau royaume, l'Austrasie, un royaume qui s'est de la Champagne jusqu'au pays de la Meuse et de la Moselle. Ce royaume appartient évidemment aux Carolingiens. En 843, c'est une des dates fondatrices de notre histoire. C'est le traité de Verdun qui va partager l'ancien empire de Charlemagne. Et c'est comme cela que Lothaire Ier reçoit ce territoire du centre qu'on appelle la Francia Media, qui va de la mer du Nord jusqu'à l'ouest de l'Italie, hein, qui couvre toute la Bourgogne, etc. À la mort de Lothaire en 855, ses fils se partagent de nouveau le royaume. C'est tout le problème, hein, d'ailleurs, évidemment, de ces souverains mérovingiens puis carolingiens qui n'ont cessé de morceler et diviser les choses. Lothaire II reçoit le territoire qui va de la mer du Nord jusqu'aux sources de la Meuse et de la Moselle. C'est la naissance Lotharingie, hein, c'est la naissance de ce nouveau royaume, cette Lotharingie qui, quelques années plus tard, va être intégrée à la Francie orientale, qui sera le noyau du futur Saint-Empire romain germanique. C'est aussi ça l'origine du caractère germanique initial de cette région. Donc vous comprenez comment cette Lotharingie est germaine d'une certaine manière. Au début du Xe siècle, le duché de Lorraine, Lotharingie, ça finit par donner Lorraine, est créé. Il s'étend de la mer du Nord jusqu'aux sources du Rhin. Et puis la Lorraine est divisée en 2 régions. Le duché de Haute-Lorraine, c'est ce qu'on appelle nous notre Lorraine actuelle. Et puis le duché de Basse-Lorraine qui comprend jusqu'aux villes d'Aix-la-Chapelle et de Liège. Au fil des siècles, le royaume de France ne va avoir de cesse de prendre le contrôle des territoires lorrains. Vous savez qu'en 1420, Charles II de Lorraine va marier sa fille, son héritière, Isabelle, à l'héritier du duché de Bar, un certain roi René, le bon roi René, qui était le fils de Yolande d'Aragon, vous savez. 50 ans plus tard environ, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, s'empare d'un certain nombre de places fortes lorraines, et à ce moment-là, René II va s'allier à Louis XI pour essayer de déjouer les plans du Bourguignon qui meurt déchiré par les loups en 1477. En 1552, c'est Henri II, roi de France, qui va annexer les 3 villes de Metz, Toul et Verdun, ce qu'on appelle les 3 évêchés. Au XVIIe siècle, Nancy va être prise par Louis XIII, puis Louis XIV va occuper l'ensemble de la Lorraine, mais c'est donc en 1766 seulement, sous le règne de Louis XV, que la Lorraine devient définitivement française. Je vous explique comment dans un instant. Jusqu'au 23 février 1766, le duc souverain de Lorraine s'appelle Stanislas Leszczynski. Ce qui a permis à ce vieux monsieur, il a 88 ans en 1766, ce qui lui a permis d'accéder à un tel rang, ce ne sont pas ses origines. Comme son nom l'indique, il est polonais. Ce n'est pas non plus son rang. Certes, il a été pendant quelques années roi de Pologne, mais enfin, les Russes l'ont chassé de son trône en 1709 et pendant 15 ans, il est devenu un souverain déchu, exilé, dont personne ne se souciait. Non, en vérité, si Stanislas est depuis une trentaine d'années duc de Lorraine, c'est parce que sa fille Marie, notre Marie Leszczynska, a épousé le très puissant Louis XV. Et oui, par la grâce de cette alliance inespérée, en 1725, le malheureux Stanislas Leszczynski est devenu le très chanceux beau-père du roi de France. Rien que ça, un beau-père auquel son royal gendre n'a eu de cesse dès lors de donner un statut digne de lui. Et c'est ici qu'il faut que je remonte à l'an de grâce, 1733, quand tout... c'est décidé. En 1733, le roi effectif de la Pologne, c'est Auguste II, il est aussi roi de Saxe, peu importe, il vient de mourir, et Louis XV se dit qu'il y a là une chance à saisir. Il monte tout un stratagème pour essayer de rendre son ancien trône polonais à Stanislas, qui depuis 8 ans est devenu son beau-père. Il faut vous préciser que la Pologne est une monarchie élective. C'est la Diète qui, là-bas, élit le roi de Pologne. Louis XV se dit qu'on doit bien pouvoir influencer ce scrutin. Il envoie sur place de son propre chef des espions qui n'auront de compte à rendre qu'à lui. Et c'est l'origine, vous savez, de cette diplomatie parallèle et secrète qui est entrée dans l'histoire sous le nom de « secret du roi ». Dans le même temps, la diplomatie officielle choisit elle aussi la ruse. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, il s'appelle Chauvelin, c'est le marquis de Chauvelin, il annonce à grand fracas Chauvelin que le roi Stanislas se met en route pour la Pologne en passant par Brest, la mer du Nord, la Baltique, Danzig, etc. On calcule ça dans les chancelleries, on se dit qu'il va lui falloir 4 ou 5 semaines pour gagner Varsovie, qu'on est tranquille, il faut juste hâter le scrutin avant qu'il n'arrive. En réalité, celui qui part est un faux Stanislas. Il monte en carrosse, un sosie, si vous voulez, qui a revêtu les habits de cour et qui quitte Versailles en grande pompe. Pendant ce temps, le vrai Stanislas, lui qui est déguisé en voyageur de commerce, tout à fait simple, il monte dans une voiture rapide et légère, il va passer directement par Cologne, Hambourg, Berlin, il gagne l'Oder. Là, l'ambassadeur de France à Varsovie, le comte de Monti, l'attend. Stanislas traverse le fleuve, il change ses vêtements, il reprend son grand habit, il barre sa poitrine du cordon bleu du Saint-Esprit pour bien montrer qu'il est le candidat officiel du roi de France, ça fait toujours son petit effet, et le voilà donc qui entre à Varsovie le 8 septembre. 8 septembre, 2 jours avant la date fixée pour son élection. On est en 1733. Bien joué, monsieur Stanislas. Le 11 septembre de cette année 33, il est élu à la Diète à une large majorité. Et pour la seconde fois, donc, le voilà roi de Pologne. Seulement 2 jours après son installation au château de Varsovie, les avant-gardes russes s'approchent de la Vistule. Le nouveau roi décide de se réfugier à Danzig, à Gdansk, diraient les Polonais. Entre-temps, son rival soutenu par Vienne et Saint-Pétersbourg est proclamé roi de Pologne sous le nom d'Auguste III. Et la France aussitôt en profite pour entrer en guerre contre l'empereur Charles VI. C'est ce que voulait Louis XV, ça tombe bien. On ne déclare cependant pas la guerre à la Russie, notez-le bien. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre de succession de Pologne. Alors, Louis XV se garde bien d'aller indisposer les Russes et c'est la raison pour laquelle il ne va pas envoyer de renfort à son beau-père qui reste assiégé dans Danzig. Stanislas va finir par devoir s'enfuir. Il se déguise encore, cette fois en paysan, et il va devoir se faufiler comme il peut, fuir pendant 6 jours et 6 nuits, aidé par un espion de Louis XV. Finalement, la France, dans la guerre de succession, est en position de force. Elle impose la signature d'une paix favorable à Versailles. À l'époque, en 1735, celui qui a la haute main sur le gouvernement en France, c'est l'ancien précepteur du roi, c'est le cardinal de Fleury. Et il propose à Louis XV une solution qui pourrait présenter le grand intérêt de résoudre en même temps la question polonaise et la question lorraine. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il était question que le jeune duc de Lorraine, François III, épouse la fille et l'héritière de l'empereur, l'autrichienne Marie-Thérèse. Gros problème pour la France, vous imaginez bien. Un problème qui avait justifié la guerre. Eh bien, Fleury pense avoir trouvé la solution. «
extrait de la bande originale du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick sur Europe 1, Piano Trio numéro 2, opus 100 de Schubert. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Stanislas de Leszczynski.
Alors, vous savez qu'autrefois, on écrivait Leszczynski, CZ, tout simplement. C'était tellement plus simple. Mais aujourd'hui, on veut faire polonais. Donc, on dit Leszczynski et on a remis tous les S, les C, les Z et tout ça. L'idée du cardinal de Fleury et des conseillers de Louis XV, c'est que le jeune François de Lorraine, fiancé à Marie-Thérèse de Habsbourg, renonce à son duché. Il va laisser tomber la Lorraine, parce qu'on peut pas imaginer que l'Empire soit souverain en Lorraine. Vous imaginez, on est carrément dans le royaume de France, là, aux portes même du royaume. Et on va lui donner en échange la Toscane, érigée en grand-duché. Quant au duché de Lorraine, il s'agit donc en fait des deux duchés de Lorraine et du Barrois, on va placer à leur tête un duc souverain très proche du roi de France, puisque c'est l'infortuné beau-père de Louis XV. Revoilà notre Stanislas. Il s'agit d'un titre concédé en viager. C'est intéressant ça, parce qu'il est bien stipulé qu'à la mort du beau-père, la Lorraine deviendra purement et simplement française. Donc c'est une période intermédiaire, si vous voulez, qui va quand même durer 3 décennies. Banco, en vertu d'un accord diplomatique qui est connu sous le nom de préliminaire de Vienne, je vous passe toutes sortes de détails, Stanislas devient donc duc de Lorraine et il va le rester 30 ans. Il ne revient en France après toutes ces pérégrinations et tous ces déboires, le pauvre Stanislas. Il faut imaginer un homme très corpulent, hein. C'est une espèce de colosse et de géant, ce Stanislas. Il revient en France au printemps 1736. Vous imaginez les retrouvailles à Versailles avec sa femme, Catherine Opalinska, avec sa fille, Marie Leszczynska, bien entendu, et toute la petite famille. Ça fait 3 ans qu'il était parti, hein. Il s'installe au château de Meudon avant de rejoindre sa Lorraine, puisque maintenant c'est sa Lorraine. J'avais convié l'année dernière à ce micro Eve de Castro pour évoquer, à propos d'un ouvrage qu'elle avait consacré à un nain de Stanislas, qu'elle m'aide à évoquer la personnalité singulière de l'ultime duc de Lorraine. Homme de grande culture, écrit-elle, parlant l'allemand, le français, l'italien, le latin, féru de mathématiques et d'architecture, passionné d'art sous toutes ses formes, et notamment sous la plus décorative de toutes, puisque l'on va voir Stanislas enrichir, enjoliver, ennoblir partout les résidences dont il hérite et aussi celles qu'il va créer de lui-même. On le voit créer partout des folies dans les parcs, des grottes, des mécanismes incroyables, des jets et des jeux d'eau. Nous allons parler de tout ça dans un instant, bien entendu. On peut dire que pour la Lorraine en général et pour Lunéville, le Versailles lorrain en particulier, c'est une période très faste. Un érudit nancéen de la Belle Époque s'appelait Albert Jacot a écrit, je le cite, son ouvrage s'appelle « Le mobilier, les objets d'art des châteaux du roi Stanislas », c'est un classique pour les spécialistes de la question. Il a écrit « Le château de Lunéville dépassait encore en magnificence toutes les autres demeures. La salle à manger, dont la boiserie contenait 12 superbes tableaux représentant l'histoire d'Achille, une pendule astronomique, des buffets sculptés, une tribune pour les musiciens, des lustres, des girandoles de cristal et des vases de toute beauté, c'est la chambre de parade du roi et la salle du trône qui frappaient les regards des souverains mêmes et des personnages illustres visitant le château de Lunéville, parce que très vite ce château va devenir la plaque tournante des sommités européennes. C'est tellement pratique, hein, on est en pleine Lorraine, ça permet de faire halte sur le chemin entre les différentes principautés et états allemands et la cour de France et d'autres cours du reste. À Nancy, un très vaste et remarquable ensemble architectural est créé par Emmanuel Héré, grand architecte dont on va avoir l'occasion de parler tout à l'heure. Et puis, vous savez, ça, je ne vous apprends rien, que c'est Jean Lamour, un serrurier, grand serrurier, quand je dis serrurier, ferronnier d'art avant tout, bien sûr, qui va créer les fabuleuses grilles dorées de la place royale, qu'on appelle aujourd'hui la place Stanislas, donc, et qui fait la célébrité de Nancy, bien sûr. C'est un des motifs de célébrité. Dieu sait que la capitale, que la cité nancéenne en a d'autres. Alors, je vous disais que les souverains s'arrêtaient à Lunéville, à Nancy, etc. Mais les philosophes en font autant. Je pense à Voltaire, bien entendu. Les grands musiciens, les meilleurs jardiniers. On est vraiment dans un foyer, un creuset de culture extraordinaire. Stanislas est à l'origine de la fondation de la Bibliothèque royale de Nancy, de la Société royale des sciences et belles lettres de Nancy. Il collectionne aussi les maîtresses, disons-le. On en parlera, on en dira un mot. Il est pourtant plutôt jeune. Hein. Le beau-père du roi de France a de l'embonpoint comme une barrique, écrit Ève de Castro. Le teint d'un rouge vineux, des bajoues de dindon, encadrées par une longue et épaisse perruque blanche dont les boucles rebiquent sur ses épaules. Ses sourcils sont touffus et sinueux, la bouche grasse, retroussée aux commissures. Il ronfle comme un soufflet de forge en marchant et voit à peine plus loin que le comte Arnaud, mais l'âge n'a pas altéré sa bonhomie actuelle, sa bonhomie naturelle. La vérité, c'est que dans les coulisses, l'administration française veille au grain et prépare déjà l'après-Stanislas. Versailles, en effet, a nommé un gouverneur militaire en la personne du maréchal de Belle-Île, mais aussi et surtout un chancelier qui est une espèce de vice-roi français. Nous dirions-nous qu'il est un peu le préfet en mission. Il s'appelle la Galésière et on y vient dans un instant.
Très bel après-midi avec nous sur Europe 1. Vous écoutez au cœur de l'histoire et nous attendons à tout moment vos messages, vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer d'évoquer Stanislas, le dernier duc de Lorraine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'ultime duc de Lorraine est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le destin de Stanislas Leszczynski.
Et oui, ce Stanislas Leszczynski est solidement encadré par l'administration française. Je vous ai parlé de ce monsieur de la Galésière, il s'appelait Chaumont de la Galésière. Il a 40 ans quand il s'installe à Lunéville. Et voilà ce que nous dit Anne-Murat Thory-Philippe dans la belle biographie qu'elle a consacrée, chez Fayard comme il se doit, à notre Stanislas. Aux côtés du duc, nous dit-elle, il s'occupe, ce Chaumont de la Galésière, il occupe deux fonctions officielles, celle de chancelier garde des Sceaux, véritable premier ministre du roi, et celle d'intendant. La première fait de lui le gardien des Sceaux ducaux, le président de l'audience du Sceau et le chef des conseils. La deuxième lui a été confiée en avril 1737, le chancelier n'ayant aucune qualité pour s'immiscer dans l'administration des troupes françaises installées en 34 dans les duchés de Lorraine et de Bar, à cause de la guerre de succession de Pologne. Il lui faut un pouvoir de Louis XV. En l'occurrence, nous dit Anne-Murat Thory-Philippe, il ne s'agit pas d'une commission d'intendant, mais d'une simple commission d'intendant d'armée qu'on va étendre entre parenthèses à la marine, parce qu'il ne faut pas oublier que les forêts lorraines fournissent une part appréciable du bois qui sert beaucoup dans les arsenaux français à une époque où Louis XV, vous le savez, a l'intention de renforcer sa marine face à des Anglais qui deviennent de plus en plus inquiétants, qui viennent de gagner la guerre de 7 ans. Une troisième tâche, ajoute-t-elle, lui incombe, celle de représenter personnellement Louis XV en Lorraine, charge qui sera confiée en 45 à son frère Chaumont de Lucé. Eh bien, Chaumont de la Galésière et Chaumont de Lucé ne vont plus cesser désormais d'administrer véritablement la Lorraine. Et ce qui inquiète beaucoup un roi, je dis le roi parce qu'il était roi de Pologne, hein, mais par ailleurs il est duc de Lorraine, vous l'aurez compris. Ce qui inquiète beaucoup Stanislas, c'est le sort qu'on va réserver à toutes ses créations, notamment architecturales et de jardin, car il a enrichi considérablement la région, il a fait œuvre d'urbaniste, il a fait œuvre de bâtisseur, il est un petit peu un Louis XIV local, en petit si je puis dire, quoique pas si petit que ça. Et il se demande ce qu'après lui, parce qu'il commence à avoir 80, 82, 85 ans, vous imaginez, il se dit mais qu'est-ce que tout ça deviendra, que vont faire les Français de toutes mes merveilles. Et il n'aura de cesse de demander à sa fille, la reine Marie, de peser le plus possible sur son mari, sur le roi Louis XV, pour obtenir des garanties sur ce que vont devenir les biens extraordinaires et les décors fastueux de la cour de Lunéville et de Nancy. Hélas, Louis XV fait la source d'oreille, vous pouvez l'imaginer. Et on peut dire que la fin de la vie de Stanislas est une fin compliquée. Il est de plus en plus malade, il est très gros. Il faut vous dire qu'il est d'une gourmandise infernale, qu'il a inventé des repas entre les repas et des encas entre les repas intermédiaires. Il passe son temps à s'empiffrer de sucreries, notamment, car il a une vraie prédilection pour le sucre. On parlera tout à l'heure des madeleines de Commercy, tiens, par exemple. On peut dire de Stanislas que c'est un ogre. Ça n'a pas arrangé sa santé. Bien entendu, il fait de fréquentes chutes, il a parfois des indispositions, il perd conscience pendant plusieurs minutes. On s'inquiète beaucoup à Versailles. Et l'on va voir sa fille, donc Marie Leszczynska, et ses petits-enfants, le dauphin Louis et Mesdames de France, les filles de Louis XV et de Marie Leszczynska, faire le plus souvent possible le voyage pour essayer d'embrasser ce grand-père qui vient une fois par an à la cour, à Versailles ou à Fontainebleau, c'est selon, parfois à Compiègne, et qui évidemment pendant qu'il est là, gâte sa famille. C'est le bon papa gâteau de la cour de France, le pauvre Stanislas. Il va de plus en plus mal. Il a donc, alors il va perdre, il perd son nain préféré, le fameux bébé. Il va perdre Emmanuel Héry, qui joue un rôle essentiel, bien sûr. Et puis en 1764, et ça c'est encore bien plus grave pour lui, il va perdre son petit-fils adoré, le fils unique survivant de Louis XV, qui était donc le dauphin Louis, qui est le père posthume du Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Ça, pour lui, c'est terrible, évidemment. Ça va bien sûr assombrir ces dernières années. L'année 1765 n'est qu'une longue lutte contre une maladie qui devient de plus en plus envahissante. Le duc ou roi, comme vous voudrez, ne quitte quasiment plus ses appartements. Et un matin, il veut ranimer sans doute le feu dans sa cheminée, on ne sait pas exactement. Il porte une magnifique robe de chambre en tissu des Indes molletonnée que lui a offerte sa fille, la reine de France. Il s'approche sans doute un peu trop près du foyer et l'on va voir la robe de chambre se mettre à se consumer sans flamme, vous savez. Sauf que le duc, qui est quasiment aveugle, qui est devenu sourd, qui est un peu impotent, vous aurez compris, hein, il ne s'en rend pas vraiment compte, et au moment où il réalise l'ampleur des dégâts, la robe de chambre est déjà en train de brûler, de le brûler lui-même. Il souffre terriblement, sauf que c'est une nouvelle robe de chambre, il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Il appelle à l'aide, il se trouve que les laquais qui devaient normalement attendre dans la salle d'à côté ne sont pas présents. On va mettre longtemps à voler à son secours, et lorsqu'on finit par le dépouiller de cette tunique de Nessus, le pauvre duc de Lorraine est dans un triste état. Il est déjà brûlé, nous dirions-nous, pour plusieurs parties du corps au troisième degré. Le visage est ce qu'il y a de plus impressionnant, car il a des marques très inquiétantes sur le visage, mais le plus grave, ce sont les blessures qu'il a à l'abdomen et qui vont peu à peu s'infecter. On va le voir décliner de jour en jour jusqu'à cette nouvelle terrible, donc du 23 février 1766, où l'on apprend purement et simplement la mort du duc de Lorraine. À ce moment-là, bien entendu, la France devient de plein droit souverain. Le roi Louis XV devient souverain de la Lorraine. La province est rattachée, on peut l'appeler maintenant province, l'ancien duché, les deux duchés, hein, de Lorraine et de Bar, sont rattachés à la couronne de France. Et que va faire Louis XV de toutes les possessions, de toutes les collections, de toutes les merveilles accumulées par son beau-père ? Pas question d'avoir une deuxième capitale en France. La Lorraine n'est plus un duché. Les indépendantistes ont fini de rêver. Désormais, la Lorraine est une simple province française et tout sera vendu aux enchères. Bonjour Pierre-Hippolyte Penet, merci d'être avec nous. Alors nous allons revenir avec vous sur toute cette histoire de la Lorraine un peu indépendante, pas tant que ça, un petit peu quand même, et puis ce rattachement au royaume de France. Les Lorrains ont en quelque sorte, en tant que citoyens français, 250 ans aujourd'hui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la Lorraine cet après-midi, Franck Ferrand, une fois n'est pas de coutume, vous avez commencé cette émission par le retour aux origines.
Mais oui, pardon, j'ai grillé le retour aux origines.
Les origines de la Lorraine, mais précisément, oui. Mais votre équipe formidable, d'une extrême réactivité et rapidité, ils vous ont trouvé, vos collaborateurs, un autre retour aux origines, et on reviendra sur les origines de la quiche Lorraine.
Ils sont incroyables. Il faut saluer Lorena, Christophe et Pierre-Louis parce que ils ont eu très peu de temps là pour réagir, mais je trouve ça formidable. Bravo.
Et ce sera donc à la toute fin d'émission. Pour le moment, pour parler du dernier duc de Lorraine et du rattachement de la Lorraine à la France, vous recevez le conservateur du patrimoine chargé des collections 15e-18e siècle au Palais des Ducs de Lorraine, Pierre-Hippolyte Penet.
Alors, je parlais, Pierre-Hippolyte, il y a quelques instants, de cette mort terrible, hein, d'ailleurs, de Stanislas. Il va mettre combien de temps pour agoniser?
Un peu plus de 15 jours, pour mourir, tout à fait. Donc, il fait cette chute le 5 février à Lunéville. Au début, on a l'impression que sa santé s'améliore. Il envoie une lettre à sa fille pour la rassurer, pour lui dire que tout va bien, en lui disant « Vous m'aviez conseillé de me méfier du froid, mais vous auriez mieux fait de me dire de me méfier du chaud ». Et donc, il va mettre finalement à peu près plus de 15 jours à mourir le 23 février le 22 février, pardon, on envoie une lettre à Versailles en disant que sa santé est au plus mal et que voilà, on sent la fin venir.
La pauvre reine Marie, entre nous, elle aura perdu en très peu de temps son fils, le dauphin Louis, et son père, qui étaient, disait-elle, avant, quand ils étaient encore tous les deux en pleine forme, qui étaient les deux hommes de sa vie. C'était gentil pour le roi Louis XV, mais enfin, cela dit, il vivait sa vie, le roi Louis XV.
Alors, c'est vrai que c'est très important et ça apparaît particulièrement dans les oraisons funèbres de Stanislas, où les ecclésiastiques mettent particulièrement l'accent sur le rôle du dauphin, donc sa mort qui arrive juste avant celle de Stanislas, et sur la relation très particulière qu'ils avaient bâtie ensemble. Il faut dire que le dauphin était assez peu proche de Louis XV, évidemment, oui, puisqu'il était plutôt du côté du parti dévot. Et il avait tissé un lien très fort avec son grand-père, voilà, avec qui il avait une correspondance très, très fournie. Il échangeait sur l'éducation de ses enfants, sur la politique. Et on a même, nous, au musée Lorrain, un très beau dessin du dauphin qu'il a envoyé à son grand-père. Donc une relation très importante entre les deux personnages.
Vous êtes en train de préparer au musée Lorrain, justement, une exposition qui va ouvrir cet été, c'est ça?
Alors c'est ça, tout à fait. Donc une exposition qu'on a appelée la Lorraine pour Horizon, donc tout un programme. La France et les duchés de René II à Stanislas, qui aura donc lieu du 18 juin au 31 décembre prochain, à l'occasion donc des 250 ans de la réunion de la Lorraine à la France. Alors je dis réunion, très souvent les Lorrains sont très pointilleux sur le sujet, puisque le terme de réunion en fait signifie
une
acceptation et non pas un retour, puisque ce n'est pas un territoire qui revient à la France, mais qui vient pour la première fois en fait.
Disons que la France en avait eu possession, mais toujours par la force dans le passé. On va y venir dans un instant, on va revenir sur tout ça. Quelques mots, peut-être si vous le voulez, sur la personnalité de Stanislas et sur le devenir de collections qui vous sont chères, j'imagine, puisque vous en êtes le conservateur, vous, aujourd'hui.
Bien sûr. Alors, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de collections qui lui sont consacrées, qui seront présentées, bien entendu, dans cette exposition. Des souvenirs personnels du duc, des grands tableaux qui sont commandés par Chaumont de la Galésière, précisément, et qui sont extrêmement intéressants.
Donc, l'espèce de chancelier qui était une sorte de tête avancée, de tête de pont des Français.
Oui, voilà, des Français, tout à fait. Et qui joue vraiment un rôle extrêmement intéressant. Donc, pour cette préparation de la réunion à la France, puisque finalement c'est vraiment Stanislas, c'est vraiment un duc de transition finalement. Donc on a la chance en effet d'avoir un certain nombre d'œuvres très intéressantes, alors qui lui sont plus ou moins attribuées. On a une pipe de Stanislas, on a même un morceau de cheminée qui est censé être un morceau de la cheminée à laquelle il s'est brûlé. Il y a toute une légende aussi, évidemment.
C'était un monsieur de 88 ans qui était, je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté là-dessus, il était devenu très obèse.
Oui, tout à fait.
Il fallait plusieurs laquais pour l'aider à se déplacer. Enfin, il était vraiment devenu très gros parce qu'il était très gourmand.
Ah, il était très gourmand, c'est vrai, tout à fait. Alors évidemment, il avait tous les problèmes inhérents à ce défaut, en quelque sorte. Donc, il avait la goutte, évidemment, et de grands problèmes de santé. Il était donc très gourmand, comme vous l'avez dit. Alors, on lui attribue un certain nombre
les fameuses madeleines de Commercy.
Les madeleines de Commercy. Alors, cette histoire est assez amusante. Donc, on est au château de Commercy, qui est une de ses résidences, un soir où il reçoit des invités. Et donc, le pâtissier se dispute avec le maître d'hôtel, claque la porte et s'en va. Et donc, on fait appel en catastrophe à une petite servante qui est là. Et donc, qui vient voir Stanislas et lui dit, mais si vous voulez, je peux essayer de faire quelque chose. Et donc elle lui crée cette nouvelle pâtisserie, et ravi, Stanislas lui demande après quel est son prénom, et donc elle s'appelle Madeleine, et il baptise le gâteau Madeleine de Commercy.
Et voilà d'où ça vient, les petites madeleines, bien avant Proust. Hervé nous demande via Facebook si c'est vrai que le baba au rhum a été inventé également par Stanislas, qui avait proposé de mettre du vin puis du rhum sur un kouglof qu'il trouvait trop sec.
C'est la légende, en tout cas, on n'en est pas vraiment sûr, mais en tout cas, c'est exactement ça. On dit que Stanislas, on lui aurait servi donc un kouglof qu'il aurait trouvé trop sec, qu'il aurait donc arrosé d'alcool et baptisé Baba, puisqu'il était en train de lire les aventures d'Ali Baba.
Alors, voilà. Pardon de revenir à des choses nettement plus sérieuses, mais Jules, via Twitter, nous demande si, en vérité, Stanislas n'aurait pas plutôt contribué à effacer tous les signes de l'indépendance du duché de Lorraine. À mon avis, là, on confond le rôle personnel de Stanislas et celui de son chancelier, en vérité.
Alors oui, oui et non. En même temps, c'est vrai que Stanislas est tout à fait conscient qu'à sa mort, les duchés doivent revenir à la France. Et donc, il prépare lui-même ce rattachement. Alors, ça apparaît particulièrement à travers l'urbanisme de Nancy. Donc, il joue un rôle évidemment extrêmement important dans la refonte de l'urbanisme nancéen. Il crée donc cette fameuse place, l'actuelle place Stanislas, qui était à l'époque la place royale et qui était dédiée à son gendre, Louis XV. Alors ça, c'est vrai qu'au centre se trouvait la statue de son gendre, créée par Guibal et Sifflet, et tous les contemporains ont remarqué que c'était absolument extraordinaire, puisque c'était la première fois qu'un duc souverain érigeait une statue à un monarque étranger, finalement.
Et voilà, oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'il y avait une ambiguïté dans la situation assez étonnante. Alors, j'ai parlé du château de Lunéville. Nous avions fait d'ailleurs, il y a une dizaine d'années maintenant, le temps passe, nous avions fait une émission en direct du château de Lunéville avec Guillaume Vassaud à l'époque. Et c'était assez étonnant puisque nous déambulions au milieu de ce qui malheureusement ressemblait en partie à une ruine, car il y avait eu le grand incendie de Lunéville qui a beaucoup dégradé ce Versailles lorrain. Il n'y a pas que Lunéville. Il faut peut-être faire une sorte de tour d'inventaire comme ça de ce qu'a créé et de ce qu'a laissé Stanislas au Lorrain.
Alors, lorsque Stanislas arrive donc en Lorraine, il va s'installer à Lunéville, qui avait été construit par le duc précédent, donc Léopold.
Mmh, Léopold, bien sûr.
Donc construit par Germain Beaufranc.
Le père de celui qui allait devenir l'époux de l'impératrice Marie-Thérèse, en fait.
Voilà, tout à fait. Et donc Stanislas récupère un certain nombre de résidences qui existent déjà et en fait construire d'autres. Donc on a évidemment Lunéville, on a tout au fond du parc de Lunéville le pavillon de Chanteux, qui est un petit peu le grand Trianon de Lunéville. On a également Inville, Jolivet, on a Commercy qu'on a évoqué, et puis le pied-à-terre en quelque sorte.
Autant de petits Marly, si l'on veut.
Exactement, tout à fait. C'est, d'ailleurs, la comparaison est faite à l'époque, puisqu'on a vraiment des liens évidents dans ces résidences. Et son pied-à-terre à Nancy, en quelque sorte, qui est le château de la Malgrange, qui est à côté de sa nécropole, Notre-Dame de Bon Secours.
Où réside beaucoup sa favorite, il faut le dire.
Voilà,
plus souvent.
Madame de Boufflers, tout à fait, qui est donc la fille, en réalité, du marquis de Beauvaucran. Alors, c'est une histoire assez amusante, puisque le duc précédent, Léopold, avait comme favorite la mère de Madame de Boufflers. Donc, on est en quelque sorte favorite de mère en fille dans la famille de Beauvaucran.
C'est un emploi comme un autre.
Voilà, tout à fait. Et donc tout à fait, cette Madame de Boufflers va rester jusqu'à la fin de ses jours auprès de lui, puisque sa femme, Catherine, elle meurt avant
son... Il n'y a pas que des résidences de plaisance que l'on doit à... que l'on doit au roi et duc Stanislas. Il y a aussi pas mal d'améliorations dans le... Comment dirais-je? Il a fait agrandir, redécorer, même bâtir certaines églises aussi, hein, il faut le dire.
Oui, alors notamment donc, l'église Notre-Dame de Bon Secours qu'on évoquait. Alors pourquoi en fait, tous les ducs de Lorraine étaient traditionnellement enterrés dans l'église des Cordeliers, qui fait aujourd'hui partie de l'ensemble du musée Lorrain, où se trouvent toujours donc, les restes de tous les ducs de Lorraine. Et donc Stanislas décide de manière assez judicieuse de ne pas s'y faire enterrer puisqu'il considère qu'il ne fait pas partie de cette famille. Et donc il va choisir une autre église, Notre-Dame de Bon Secours, qui est une église à la sortie de Nancy, qui a été construite au départ, c'était la chapelle des Bourguignons, puisque c'est là qu'on a enterré tous les Bourguignons qui étaient morts lors du siège de Nancy. Et donc il décide de faire reconstruire l'église dans un style magnifique baroque par son architecte Héré. La voûte est peinte par le peintre provençal, et donc c'est dans cette église qu'il va faire enterrer son épouse, lui-même, et même Marie Lesinska enverra son cœur afin qu'il reste auprès de ses parents.
Très peu de temps avant cet accident stupide qui finirait par lui coûter la vie, on raconte que Stanislas s'était arrêté longuement pour prier à la mémoire de son petit-fils, le dauphin, qu'il était resté donc très longtemps à Notre-Dame de Bon Secours, et quand il en est sorti, sa favorite, Madame de Boufflers, commençait à en avoir assez. Elle lui dit, mais enfin mon ami, que faites-vous? Et il lui dit, oh madame, j'ai longtemps songé car je me disais que je serais très bientôt ici et sous terre. Il y avait donc chez Stanislas la pleine conscience, bien entendu, d'arriver au terme de sa vie et de devoir bientôt remettre sa Lorraine au roi de France.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la Lorraine, devenue française il y a 250 ans, vous recevez Franck Ferrand, le conservateur du patrimoine chargé des collections 15e, 18e siècle au Palais des Ducs de Lorraine, Pierre-Hippolyte Péné. Et vous avez reçu, Franck, de très nombreux messages d'auditeurs.
Oui, il en tombe là constamment. Je suis ravi. Les auditeurs, je pense que nous avons notamment beaucoup d'auditeurs lorrains aujourd'hui qui sont sur la brèche. Raphaël nous demande via Twitter, comment les Lorrains ont réagi à l'annexion des duchés par la France? Est-ce qu'on peut répondre à une question comme celle-là, Pierre-Hippolyte Péné?
Finalement, oui, parce que ça a été tellement bien préparé par la France que l'annexion, c'est la réunion s'est faite justement sans heurts. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que tout a été préparé pendant le règne de Stanislas, et donc finalement, ça se fait tout naturellement. Donc le lendemain de la mort de Stanislas, Chaumont de la Galésière se rend devant la cour souveraine de Lorraine et Barrois et annonce la réunion des duchés à la France, qui sera effective à la fin du mois par des lettres patentes de Louis XV.
Et que sont devenus, demande Frédéric, les appartements de Stanislas à Nancy ?
Alors, il n'y a pas eu tellement d'appartements à Nancy, justement, puisque Stanislas habitait vraiment à Lunéville. Alors, il est venu quelques fois au palais ducal de Nancy pour visiter le palais, mais il a très
palais,
vite...
Hein, il faut dire qu'ils se font face.
Il y a en effet, si vous voulez, l'ensemble constitué aujourd'hui par le musée Lorrain est constitué de deux palais différents. Le palais des ducs de Lorraine, qui date du XVIe siècle, que Stanislas va donner très vite à la ville de Nancy et à son intendant, donc au chancelier Lagalésière, qui s'y installe. Puis, il lui fait construire un nouveau palais, qui est donc le second palais du musée Lorrain, le palais de l'intendant, aujourd'hui palais du gouvernement, qui est entièrement construit dans la perspective de la place de la Carrière, et où habite, qui est donc un palais pour la France, où réside donc le chancelier.
On parle beaucoup de Nancy aujourd'hui, sublime ville de Nancy, mais il faut parler aussi de la non moins sublime Metz, sinon nous allons avoir des soucis.
Bien sûr, alors ça, tout à fait.
Cette ville était un peu mise au second plan sous le règne de Léopold et de Stanislas,
alors,
en fait.
C'est vrai que Nancy était la capitale. Alors la différence, évidemment, c'est que Metz n'est pas rentré dans le royaume de France au même moment. Donc c'est très important.
Mais c'est là qu'il faut expliquer le morcellement.
Tout à fait. Si vous voulez, au début du XVIe siècle, il faut bien comprendre que l'espace lorrain tel qu'on le connaît aujourd'hui était morcelé en plusieurs entités différentes, dont les principales étaient donc les deux duchés de Bar autour de Bar-le-Duc à l'ouest, de Lorraine autour de Nancy, et les trois évêchés, Toul, Metz et Verdun, qui étaient des évêchés indépendants. Mm-hmm. Les évêques étaient des princes dépendants du Saint-Empire romain germanique. Et donc c'est au XVIe siècle que le roi de France met la main sur ces trois évêchés.
Ça, c'est le roi Henri II.
Le roi Henri II, voilà. Tout à fait.
On est en 1552.
En 1552.
Il y avait eu avant, on va peut-être pas revenir longuement là-dessus, mais il y avait eu la célèbre bataille de Nancy entre René II d'Anjou, qui était le duc de Lorraine et de Bar, et Charles le Téméraire.
Voilà, ce qui montre bien que l'espace lorrain, ce qui est important aussi, c'est la situation géographique de cet espace, qui est au milieu de tous les états de l'Europe. Et donc, le duc de Bourgogne est le premier à s'y intéresser, puisque son duché, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, va de Mâcon à La Haye. Donc c'est un duché gigantesque, et donc au milieu il reste la Lorraine qui est indépendante, et il aimerait bien faire la jonction entre ces territoires. Et donc c'est à ce moment-là qu'a lieu donc la bataille de Nancy. Nancy est pendant quelques temps la capitale de la Bourgogne, et puis René II réussit donc à reprendre sa capitale au duc de Bourgogne, qui trouve la mort à Nancy.
Alors on en parlait d'Henri II qui récupère les trois évêchés, qui fait main basse dessus pour être plus juste. Il y a les traités de Westphalie, ça c'est Mazarin, qui vont officialiser hein, c'est ça, les choses.
Voilà, tout à fait.
Et ensuite, on voit quand même Louis XIII, avant Louis XIII et ensuite Louis XIV, essayer de conquérir en fait ces territoires.
Tout le XVIIe siècle est vraiment marqué par ces campagnes de Louis XIII et de Louis XIV qui vont essayer de contrôler ce territoire médian avec leur ennemi, que sont les Habsbourg. Donc Louis XIII arrive en Lorraine. Alors il faut dire que le duc à cette époque-là en Lorraine est Charles IV, qui, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient sagement resté neutre, décide de se tourner un petit peu trop du côté des Habsbourg et d'accueillir certains opposants politiques, on pourrait presque dire, à la cour de Lorraine, la duchesse de Chevreuse, Gaston d'Orléans, qui, pire que tout, épouse la propre sœur du duc de Lorraine sans l'accord de Louis XIII. Donc là, ça fait déborder la goutte d'eau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, pardon. Et en plus, Charles IV refuse de prêter hommage pour le Barrois mouvant, qui est cette partie du duché de Bar située à l'ouest de la Meuse, pour laquelle le duc devait hommage au roi de France. Donc Louis XIII arrive en 1633, met le siège de Nancy. Nancy et occupe donc militairement la Lorraine.
Alors on peut observer forcément qu'on a beaucoup parlé de Stanislas et fort peu de son grand devancier. C'est vrai que le héros, si je puis dire, des Lorrains fiers de la longue indépendance de leur duché, c'est Léopold. Qui était ce Léopold Ier ? Quel genre de bonhomme ?
Donc là, on arrive à la toute fin du XVIIe siècle. Donc après cette occupation de Louis XIII et Louis XIV, lors des traités de Ryswick, Louis XIV décide de rendre ses duchés au duc légitime, qui est donc le
petit... Il n'a pas tellement le choix, en l'occurrence. Mais enfin bon.
Et donc, il les rend à Léopold, qui est le petit-fils de Charles IV, justement, qui a été élevé à la cour de Vienne. Et c'est donc la restauration des duchés. Les liens se renforcent évidemment avec la famille de France, puisque Léopold épouse la propre nièce du roi Soleil, Élisabeth Charlotte, qui est la fille de Monsieur, frère du roi et de la Palatine.
Qui est la sœur du régent. Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est la période brillante, si vous voulez, où la cour de Lorraine reprend sa splendeur d'antan, en quelque sorte. Mais une restauration qui est quand même en trompe-l'œil, puisque les garnisons françaises reviennent quand même à Nancy pour surveiller tout ça de près. Et on a un personnage très amusant qui est l'envoyé extraordinaire de Louis XIV à la cour de Nancy, qui est Jean-Baptiste d'Audifray, qui sert en réalité plutôt d'espion et qui envoie des missives à la cour de France d'un ton extrêmement acide. Il commence notamment ses missives en disant que les Lorrains sont ingrats, insolents et gourmands. Donc déjà, ça commence bien. Donc c'est vraiment une indépendance, une restauration en trompe-l'œil.
Je profite de votre courte mention à l'instant pour signer que demain, nous parlerons justement de la princesse Palatine. Et nous aurons Jean-François Solnon comme invité, donc je le dis parce que je sais que nombreux sont nos auditeurs qui attendent cette émission sur la princesse Palatine et sur ses lettres très vertes, bien entendu. Alors, le duc Léopold va défendre une certaine idée de la Lorraine, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une résurgence de cette germanité dont je parlais tout à l'heure? C'est toute l'ambivalence et tout le côté passionnant de cette région. Hein.
Oui, alors son but, c'est vraiment de reprendre, pour éviter les erreurs de son grand-père, reprendre cette politique de neutralité entre l'Empire et la France. Alors on a quand même des résurgences d'éléments extrêmement lorrains, notamment la procession du 5 janvier qui est réactivée. Alors cette procession, le 5 janvier, c'est la bataille de Nancy, donc où Charles le Téméraire avait trouvé la mort. Et donc, les ducs de Lorraine faisaient tous les ans une procession dans Nancy en mémoire de cette victoire. Cette procession est interdite pendant toute l'occupation française. Et donc, Léopold la remet au moment de son retour. Donc, on a quand même une identité lorraine qui ressurgit à ce moment-là.
Et donc, c'est de ce règne, de cette époque, que datent les grandes fondations, hein, pour le coup, les grands palais, etc.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que Léopold est quand même très influencé, comme un certain nombre de pays d'Europe, par la cour de France. Donc, il veut se faire créer un palais qui soit digne de son rang. À l'époque, il réside pour le coup, au palais ducal de Nancy, qui est un palais du XVIe siècle, où il trouve qu'il n'est plus vraiment à la mode. Et donc, il commande à son architecte Beaufranc un nouveau Louvre. Donc, le terme, déjà, montre bien le modèle français. Et il fait détruire les trois quarts du palais de la Renaissance à Nancy, ce qui est quand même assez extraordinaire, la vieille collégiale Saint-Georges où étaient enterrés les ducs avant d'être au Cordelier. Et il commence à jeter les bases de ce nouveau Louvre, mais les garnisons françaises arrivent et, refusant de rester à Nancy, il quitte le palais ducal pour aller à Lunéville. Donc c'est le début de l'âge d'or de Lunéville et la fin de l'âge d'or du palais ducal de Nancy.
Alors cette période extraordinaire est suivie par celle dont nous venons de parler, sur laquelle je vous propose de ne pas revenir. Mais après Léopold, bon, on est très peu de temps avant la Révolution, qu'est-ce qui va se passer pendant la Révolution en Lorraine ?
Alors, dans les années 1780, la Lorraine est divisée en deux entités administratives, si vous voulez, la généralité de Nancy et la généralité de Metz. Donc on a encore deux structures et un certain nombre de petits états indépendants qui sont vraiment de petite taille, mais qui sont encore indépendants, qui appartiennent à des princes germaniques, notamment la principauté de Salm. Et la constituante va jouer un rôle vraiment important pour rationaliser l'ensemble, puisque la constituante crée les quatre départements, donc Meurthe, Moselle, Vosges et Meuse.
Là, cette fois, on est vraiment dans la France, voilà. Purement et simplement.
Exactement. Hein. Et on rattache les petites principautés indépendantes qui étaient encore hors du royaume. Donc, c'est vraiment la Révolution, si vous voulez, qui crée cet ensemble lorrain français.
Quant à l'identité lorraine, elle a sans doute été particulièrement à la fois malmenée et en même temps magnifiée par cette occupation. Alors là, cette fois, on peut parler d'annexion allemande en 1871, puisque toute une partie de la Lorraine va devenir purement et simplement allemande. Pourquoi une partie seulement d'ailleurs ? C'est là que l'histoire joue un rôle, hein, puisque de nouveau, on retrouve les anciens découpages, si
tout
je puis
fait.
Dire.
Alors c'est vrai que cette histoire est en plus extrêmement méconnue, mais toujours très, très sensible en Lorraine. Donc à la suite de la guerre de 1870, qui oppose donc Napoléon à Guillaume
Ier. Napoléon III, oui.
Et voilà, pardon, Napoléon III, oui, à Guillaume Ier. L'issue du traité donc veut que toute la Moselle, une grande partie de la Moselle et une partie de la Meuse, plus toute l'Alsace, donc, soit rattachée à l'Allemagne. Et donc là, on place les habitants de ces provinces devant un dilemme, puisqu'ils ont le choix, ou bien ils restent là où ils habitent et ils deviennent allemands, ou bien ils restent français, mais ils doivent quitter ces territoires.
Et, oui.
Et donc là, on a un exode terrible de 100 000 à peu près français qui vont devoir quitter ces deux régions. Beaucoup vont venir à Nancy, justement. Et donc, on a notamment un exode des cerveaux, notamment, qui viennent à Nancy, des professeurs, des médecins, des artistes. On a les frères Dôme,
on a
le verrier Gruber.
C'est la fameuse école de Nancy,
voilà,
hein, qui a fait les beaux jours de l'art nouveau.
Voilà, sur l'école de Nancy. Donc cet épisode est extrêmement important pour l'histoire régionale, puisqu'on a cet exode de population dans les deux sens, ceux qui quittent les régions, mais on a aussi des Allemands qui viennent s'installer dans ces nouveaux territoires occupés.
Et nous ne parlons pas de ce qui s'est passé ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, car parfois l'histoire a une fâcheuse tendance à bégayer. Qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer ce 250e anniversaire?
Alors justement, ça commence aujourd'hui, donc ça tombait très bien que cette émission tombe aujourd'hui.
C'est pas tout à fait un hasard.
Donc on a un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu à Nancy et en Lorraine. Donc ça commence dès ce soir avec une cérémonie à la mémoire de Stanislas dans l'église.
Le professeur François Roth va présenter une conférence sur le roi Stanislas en Lorraine et son héritage, justement.
Voilà, tout à fait, à l'hôtel de ville.
Nous pouvons dire que nous avons fait aujourd'hui en quelque sorte le teaser, comme on dit en télévision, ou la préparation de cette conférence. Merci beaucoup Pierre-Hippolyte Penet. Bon courage pour cette exposition que vous êtes à laquelle vous êtes en train de mettre la dernière main. Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez à présent, Franck Ferrand, à la question de Francine qui, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, vous demande de raconter l'histoire de la quiche lorraine.
Eh oui, alors tout ça vient de... C'est encore une tradition allemande au départ. Hein. D'ailleurs, quiche, ça vient de la racine allemande couronne, le gâteau, ou küche, la cuisine. Vous voyez, on voit assez bien comment on arrive à quiche. La recette est très ancienne, mais on en trouve la trace au début de l'époque moderne, au XVIe siècle. C'est le duc de Lorraine, donc Charles III, qui était, semble-t-il, grand amateur de quiche. C'est en tout cas ce que l'équipe me dit d'après les recherches qui ont été faites. Vous l'imaginez, à la hâte. Le mot va se diffuser au 19e siècle, on y fait souvent référence. Alors, je précise quand même, au risque de me faire des ennemis, que dans la recette originale, il n'y avait pas de fromage. Hein. En fait, le lait, les fécules, le fromage ne sont pas dans la toute première quiche lorraine. Alors, j'ouvre l'ouvrage d'André Castelot, L'Histoire à table, et voilà ce que je lis à l'article Quiche lorraine. En Lorraine, les quiches étaient la gloire des premiers mets d'autrefois. Elles venaient après les danses et les chants des trois jeunes filles en robe blanche dont la mission était dans cette froide province d'annoncer le printemps. Et les quiches étaient présentées au milieu du repas, après le cochon de lait emmitouflé de gelée tremblante. Elles étaient très grandes, comme des roues de bicyclette, mais la recette était la même qu'aujourd'hui, où elle a des dimensions certes plus discrètes. Et voici Marion Rudger.